je n'avais plus mis les pieds au pays du soleil levant depuis décembre 1996. Nous étions en février 2012. Le départ était fixé au 27 mars. 16 années sans Japon. La même durée qu'entre mes 5 et 21 ans, qui m'avait fait l'effet d'une traversée du désert. Les pires années furent les premières. À 5 ans, à 6 ans, je me cachais sous la table pour souffrir en paix. Dans cette pénombre, je reconstituais le jardin, la musique de mon Éden et le souvenir devenaient plus vrais que le réel. Je pouvais alors pleurer les yeux ouverts, contemplant ce monde perdu que la force de l'hallucination ressuscitait. Quand on me retrouvait, on me demandait la nature de ce chagrin et je répondais « C'est la nostalgie ». Bien plus tard, j'ai découvert que celle-ci était méprisée en Occident, qu'il s'agissait d'une valeur passéiste toxique. La cruauté du diagnostic ne m'en a pas guéri. Je demeure une nostalgique invétérée. Quand on m'a proposé ce reportage sur les traces de mon enfance japonaise, j'ai accepté pour une raison simple. J'étais persuadée que le projet serait refusé par la chaîne de télévision. J'étais à cette époque à un stade de mon cerveau où je valais moins que rien. Personne ne miserait un euro sur moi. L'équipe s'étonna que France 5 mit 3 mois à répondre. Je n'en étais pas surprise. Le projet était si absurde que la chaîne ne prendrait sans doute pas la peine d'envoyer son refus. Le silence suffisait à souligner l'inanité de l'entreprise. En janvier, l'équipe m'avertit que France 5 acceptait. Je tombais des nues. J'allais donc vraiment retourner au Japon. Sidérée, je m'aperçus que cette perspective, à laquelle je n'avais jamais cru, m'enthousiasmait. 16 années sans Japon. J'étais au bout du rouleau. L'imparfait ne se justifie pas, je suis au bout du rouleau. Nous sommes aujourd'hui le 11 mars, premier anniversaire de Fukushima. La catastrophe m'a ravagée d'une manière que je ne parviens pas à dire. Quand l'horreur s'est produite, j'ai écrit un récit à la gloire du sublime Nippon que j'ai publié au bénéfice des sinistrés. Une goutte d'eau dans la mer, mais qui eut une conséquence imprévue. Le Japon, qui avait cessé de me publier depuis stupeur et tremblement, recommença à traduire mes livres. Dans 16 jours, je pars pour Osaka. J'essaie d'y penser. Pure perte. Mon esprit se dérobe aussitôt. C'est trop énorme pour être appréhendé. Je sais que j'ai besoin d'être sauvée. De quoi ? D'un ensemble de choses dont beaucoup me sont inconnues. Si je savais précisément ce qui me menace, je serais sans doute déjà sauvée. Le salut relève du mystère le plus bizarre. Le 21 décembre 2011, j'ai reçu un bonsaï d'une grâce exquise. Je l'ai installé dans mon appartement et appelé Swift. 2 semaines plus tard, Swift commença à mourir. Je courus chez la vendeuse, autoproclamée spécialiste de cette espèce, qui me dit « Votre bonsaï agonise. Je sais, que me conseillez-vous ? Rien. Il y a forcément quelque chose à faire. Contre la mort ? Il n'est pas encore mort. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » Elle haussa les yeux au ciel. Ces boniments ne valent pas pour un bonsaï. Dès son enfance, il a vécu des tortures dont vous n'avez pas idée. Il ne tient pas à vivre, vous comprenez ? Je m'aperçus que la vendeuse était une dépressive qui attribuait ses pathologies à ses plantes. Et je m'en allai. Dans la rue, je passais devant un cinéma qui diffusait Hugo Cabret de Scorsese. L'horaire coïncidait. J'achetai une place et attendit dans la file, avec Swift dans les bras. Les gens me regardaient en secouant la tête. L'heure venue, je m'installai dans la salle. Swift, sur mes genoux, semblait sur le point de rendre le dernier soupir. J'osais à peine me représenter les tourments qu'on avait infligés à sa croissance pour le forcer d'être bonsaï. Apprécier cette espèce suppliciée en disait long sur notre sadisme. Le film commença. La première moitié m'intéressa peu et je fus tentée de m'endormir. Dormir au cinéma est beaucoup mieux que dormir au lit. C'est du sommeil conscient. Mais la deuxième moitié m'emballa à fond et je m'éveillai à des émotions sélénites. La figure de Méliès me réconcilia avec la conquête de l'espace et je quittai la salle en exultant. Dans mes bras, Swift conservait un silence méditatif. De retour chez moi, je déposai ma plante de compagnie près de la cafetière et continuai d'exister. Le lendemain, le bonsaï était ressuscité. Seulement, ce n'est plus un bonsaï. Il en a toujours le corps chétif, mais il produit désormais des feuilles aussi grandes que celles d'un baobab. Scorsese l'a libéré de son envoûtement de petitesse.